18h, 19h30, Les Informés, présentés par Adil Farkan sur Beurre FM.
Eh bien bonsoir à tous, merci d'être avec nous, vous le savez, toujours un plaisir d'être avec vous. 18h, 19h30, Les Informés, c'est votre émission, votre magazine. Alors revenons au sommaire de cette émission, qu'est-ce qui vous attend? Bien, eh bien nous allons découvrir, vous savez quoi, un film tout d'abord, un acteur, un comédien, qui s'appelle donc... Eh bien, tout simplement, Nidal Elmelouli. Et puis, il va nous parler à la fois de son actualité, mais aussi de son court-métrage et de ce qui l'attend dans les projets à venir. Ensuite, après, vous le savez, 01 53 48 3000, c'est toujours, évidemment, vous qui êtes prioritaire. Le face-à-face, avec au sommaire de cette émission, l'affaire qui continue de parler d'épisode en épisode, l'affaire Bayou, avec notamment cette sortie de l'ex-secrétaire national qui dit Sandrine Rousseau est allée trop loin. Ensuite, après, nous parlerons à la fois de colère, Dupond-Moretti. Bon, on parle de démission, l'opposition réclame leur démission. On en reparlera. Vous savez quoi, ça fait débat aussi notamment. Et puis, autre sujet, c'est le bras de fer autour de cette réforme. Ça y est, l'Assemblée, c'est la rentrée. On peut le considérer. Que va-t-il se passer? Quelles sont les questions, évidemment, qui vont interpeller? Est-ce que, évidemment, les débats vont s'enchaîner de clash en clash ou pas du tout? Puisque, d'ores et déjà, d'après les sons de cloche que j'ai, évidemment, ça va être un Parlement, un hémicycle plutôt animé. Ensuite, après, on parlera de vos morts. Mangez vos morts. Ça, c'est une déclaration qu'elle regrette déjà, d'ailleurs, la députée Obono. Après avoir dit « j'assume mes propos », eh bien, elle rebrousse chemin et elle, ce matin, elle dit « oh, c'était une boutade ». Bon, on reviendra sur, évidemment, ce terme qui a interpellé et puis surtout qui a fait beaucoup débattre sur les réseaux sociaux, c'est Daniel Obono qui plaide aujourd'hui cette boutade après ce tweet, évidemment, et cette sortie très remarquée. Voilà, le 01 53 48 3000, c'est votre numéro. Les Informés, c'est tout de suite, c'est maintenant et en toute liberté d'expression.
Beurre FM, 18h-19h30, Les Informés, présentés par Adil Farkan.
Et on démarre tout de suite l'interview du jour.
Les Informés. Les Informés. L'interview.
Et l'interview, vous le savez, c'est avec un comédien notamment, qui commence à faire parler de lui, parce qu'il est metteur en scène, il est aussi réalisateur. Il s'appelle Nidal Elmelouli. Bonjour Nidal.
Bonjour.
Comment ça va?
Oui, ça va très bien.
Vous êtes dans quel état d'esprit en ce moment là? J'ai l'impression que vous êtes emporté par une vague là,
qui
vous
anime, non?
Alors Nidal, merci d'être avec nous. Elmelouli, pardon. Voilà, exactement.
Non, vous... Avec un à la fin, oui.
Exactement. Alors, d'abord, on va parler de votre, évidemment, avant de parler de votre actualité qui se déroule demain évidemment. Vous faites l'actualité parce que ça se passe au cinéma Lincoln sur les Champs-Élysées à 16h. Justement, on va commencer par cette actualité. Que va-t-il s'y dérouler? C'est dans le cadre du festival L'Afrique fait son cinéma. Alors, dites-nous tout, mon cher Nidal. Que va-t-il se dérouler? Et puis demain, me semble-t-il, c'est un moment important pour vous.
Ah, très important, parce que ça sera la première du film Silmia, qui va représenter l'Algérie, le seul court-métrage qui va représenter l'Algérie dans ce festival L'Afrique fait son cinéma. Et voilà, c'est un travail indépendant, libre, qui m'a pris beaucoup de temps. Certes, c'était 6 jours de tournage, mais 2 ans de travail derrière, poste de production, montage, tout ce qu'il faut pour sortir un bon film. Et j'espère qu'il sera soutenu par tous ceux qui aiment l'Algérie, le Maghreb, la liberté d'expression, parce que c'est un sujet très important, le Silmia, c'est la Pacifique, c'est la...
Si on doit le traduire littéralement, ça donne quoi, Silmia?
Silmia, la Pacifique.
La Pacifique, exactement.
La Pacifique, c'était la révolution du sourire en Algérie, le Hirak. Oui. On l'appelait Hirak, après Silmia, et la révolution du sourire aussi, parce que c'était tellement pacifique que les gens, même dans le monde entier, ils étaient étonnés. Et ça a duré 2 ans. Et après 2 ans, j'ai dit c'est nécessaire et une obligation de faire un film dessus. Il y a eu des documentaires qui parlaient de cette révolution, mais Silmia, ce film-là, ce court-métrage que j'ai tourné avec des amis et des hirakistes, je les remercie d'ailleurs, et je remercie tous les hirakistes de la Place de la République qui ont fait un travail énorme. Et c'est la première fiction qui s'est faite sur sur ce mouvement.
Demain, donc, est un grand jour. Donc, celles et ceux qui nous écoutent en réalité, Nidal, peuvent venir demain, évidemment, venir voir la projection, la première projection dans le cadre du festival L'Afrique fait son cinéma. C'est un honneur pour vous parce que le festival a retenu, évidemment, toute son attention concernant votre court-métrage. Comment ça s'est déroulé, d'ailleurs? Quels ont été les, il y a eu des critères précis concernant, donc, la retenue de votre film dans ce festival qui est très connu, d'ailleurs, hein?
Oui, oui, oui. D'ailleurs, les critères, il faut que tu sois soit un réalisateur africain ou le film est africain. Voilà, c'est les seuls critères. Et comme on le sait, bien sûr, l'Algérie appartient au continent africain. Du coup, il y avait des envois. J'ai envoyé le court-métrage. Il était passé dans une commission de sélection, tout ça. Et ils m'ont annoncé cette nouvelle-là, qu'il sera projeté le 5 octobre et qui est une date très, très, très significative et très, très symbolique aussi, parce que ça correspond au 5 octobre 88 aussi.
Ouais, ouais,
la première révolution que moi, en tant que jeune à l'époque, j'ai participé pour obtenir la liberté d'expression, pour obtenir la liberté de la presse, les multipartismes, et ça a duré que 4 ans. Les gens qui savent bien, qui connaissent bien l'histoire, ça a duré malheureusement que 4 ans, et après on a eu la guerre civile, et je suis encore resté pour la liberté.
Oui.
Jusqu'à voilà, j'ai combattu avec mon art et tout jusqu'à 2001. Je suis venu en France, voilà l'histoire, comment il était sélectionné, ce film là et apparemment c'est le thème cette année, c'est sur les révolutions.
C'est sur les révolutions, et j'ai vu la programmation. Effectivement, une riche programmation pour cette 4e édition du Festival International du Film Africain. Je dois dire qu'effectivement, pour celles et ceux qui nous écoutent, franchement, il faudrait aller vous soutenir. Qu'est-ce que vous leur dites d'ailleurs pour venir, évidemment, voir, découvrir votre film concernant donc le Hérarque, de la manière dont vous le traitez, dont vous en parlez. Est-ce que ça a été... D'abord, vous dites quoi comme message à celles et ceux qui vous écoutent aujourd'hui, que c'est un rendez-vous à ne pas manquer demain?
C'est sûr que c'est un rendez-vous à ne pas manquer, parce que...
C'est à 16h, hein, de... 16h, hein.
C'est à 16h, oui. Ouais.
Et en plus, c'est la première.
Avant, parce que... Oui, parce que c'est la première mondiale, oui, bien sûr, c'est la première fois que je le présente, et toute la journée, ça sera dédié aux courts-métrages, qui sont presque une trentaine de courts-métrages. Moi, je suis en compétition avec ces courts-métrages qui sont de pays divers, même juste pas que d'Afrique, hein, parce que il y a du Brésil, il y a le Canada, il y a la Belgique, mais c'est juste les réalisateurs, ils sont africains. Et du coup, moi, au lieu de me présenter comme film français, je me suis présenté comme un film algérien.
Ouais.
Et
écoutez,
je leur demande de venir nous soutenir, parce que ce film-là, je l'ai fait, c'est la première fiction, comme je vous ai dit, et je l'ai fait, et je l'offre, et je le dédie au peuple algérien et tous les révolutions dans le monde entier.
C'est beau. On va écouter un petit extrait, justement, de Silmia, votre premier film, le premier film qu'il ne faut pas manquer demain. Vous l'aurez compris, de la part de Nidal, un film à ne pas manquer demain qui est donc projeté dans le cadre du Festival International africain. Ça se passe sur les Champs-Élysées. C'est au cinéma Lincoln. Tout en haut, il me semble, à côté du drugstore Publicis. Donc,
oui,
de mémoire, exactement.
Du Georges Sec, métro Georges Sec.
À 16h.
Vous n'avez pas beaucoup de marche, vous n'allez pas vous fatiguer, rien.
C'est en face, c'est en
vous
face.
Vous sortez, ouais.
Exactement. Écoutons l'extrait de votre film.
Ce sont les rues d'Algérie. Les rues d'Oran. D'Alger. De la Nièvre de Constantine. Là et ailleurs. Encore une saison.
Et donc le monde entier et tous les
encore une saison. Je pense qu'à mon art, qu'à ma peinture, qu'à ma révolution. Et je te signale que ce n'est pas la mienne, cette révolution. C'est la révolution d'un peuple tout entier. Et c'est mon rôle en tant qu'artiste d'être présent avec mes compatriotes.
Oui.
Nidal, comment ça s'est passé d'ailleurs votre tournage pour parler du Harak? Quel angle avez-vous emprunté pour raconter justement votre film?
D'ailleurs, je voulais juste préciser quelque chose de très important. C'est la musique qui a été offerte à ce film par Lotfi Attar, Raina Rai, qui est un grand musicien, un grand guitariste dans le monde entier.
La classe, hein. Ouais. On connaît de nom.
Oui. Oui. D'ailleurs, il est ici à Paris, il va faire quelques concerts. Et je le remercie d'ailleurs pour ce beau cadeau. Voilà. Comment j'ai tourné ce film, hein?
Oui, c'est ça. Quel angle avez-vous emprunté justement pour raconter votre histoire, le film Silmiya, justement?
Oui, c'est pas un angle très politique et tout, mais j'ai parlé de l'engagement de l'artiste. L'engagement de l'artiste dans des révolutions en général. Comment il délaisse tout ce qui est autour, sa vie perso, tout ça, et il se consacre juste pour la révolution parce que il voit, il sent que c'est son devoir d'être ici avec le peuple.
Alors, rendez-vous, j'ai bien compris qu'il faut vraiment pas manquer. D'abord, bravo pour votre film parce que c'est jamais simple.
Merci.
C'est un film qui a été complètement autofinancé.
Ah oui. C'était vraiment, c'est avec une grande volonté qu'on l'a fait, et voilà, c'est un film à zéro euro. J'avais un producteur juste un producteur algérien bien sûr, qui réside à Paris, et juste avant le confinement, il m'a dit je pourrais pas te financer, désolé. Et moi j'avais ce scénario sous le coude et j'ai dit qu'est-ce que je vais faire avec.
Ouais, alors j'ai rassemblé
Oui, parce que j'étais dans l'obligation, parce que c'est après 2 ans du Irak, je dis il faut faire un événement, il faut faire quelque chose. Alors il y avait le confinement partiel, on s'est emprisonné en quelque sorte ou dans les studios à l'opératorium, le Poratorium de Nanterre, et on a construit les décors et on est resté avec l'équipe qui était motivée.
Nidal El-Meloui, il me semble que c'est l'un des premiers rares films consacrés donc à Hirak.
C'est parmi les premiers. Là, ils commencent à faire des films sur le Hirak. Il y a eu des documentaires, mais en fiction, non. Non, c'est... voilà, il n'y en a pas énormément. Mais à l'époque, quand je l'ai tourné, c'était la première fiction qui était faite sur le Hirak.
Eh bien, rendez-vous à ne pas manquer, Nidal El-Meloui, justement, comédien, metteur en scène, première réalisation et scénario, donc c'est vous-même avec ce film que je vous invite à découvrir demain sur les Champs-Élysées au cinéma Lincoln, dans le cadre du Festival international du film africain. À ne pas manquer, rendez-vous, donc Nidal vous attend là-bas. Évidemment, la projection a lieu à 16h. Merci, mon cher Nidal El-Meloui.
Merci à vous. Merci
et bonne projection.
Merci, et vous êtes le bienvenu aussi.
Allez. Ça marche, mais écoutez, si le temps me le permet, ce sera avec grand plaisir.
Ce sera un honneur de vous accueillir.
Merci à vous. Au plaisir. Le rendez-vous est donc d'ores et déjà noté. Allez le soutenir, effectivement. Allez le soutenir. Il faut toujours soutenir des initiatives comme celle-là, effectivement. On marque une pause et on se retrouve tout de suite après avec les informés, le face-à-face notamment, qui sont d'ores et déjà sur le plateau, les débatteurs influenceurs. À tout de suite.
Les informés reviennent dans un instant. 18h, 19h30, les informés présentés par Adil Farkan sur Beurre FM.
Et vous aussi également aux informés, c'est au 01 53 48 3000, n'hésitez pas à nous appeler tout de suite en attendant vos appels, le 01 53 48 3000, ça c'est votre numéro, à ne pas manquer, venez débattre évidemment et commenter l'actualité avec nous, le face-à-face.
Les informés, le face-à-face.
Face à face, c'est avec Jimmy Dalidou, le retour. Comment ça va mon cher Jimmy?
Bonsoir tout le monde, bonjour pour tout le monde.
Représentant syndical auprès de la CGT.
Ouais, toujours.
Absolument. Tiens, Laurent Berger a fait une déclaration là, vous la partagez ou pas?
Par rapport à son fameux
pour 65 ans.
Ouais, mais on dit tous les syndicats en disent tous, tout le monde dit que c'est niette en fait, hors de question de travailler plus longtemps.
Ça s'annonce.
Mais j'ai bien aimé sa petite phrase quand il a dit que la vie des travailleurs n'est pas un fichier Excel. Ça c'est très bien.
C'est rare quand même que Laurent Berger parle comme ça. Hein.
Bon, ils disent pas que des mauvaises choses hein, la CFDT.
C'est vrai, ils disent pas que premier grand syndicat, premier.
C'est pour ça que l'unité de tous les syndicats est importante.
Exactement, mais je crois que là il me semble qu'il y a une unité des syndicats. Là,
hein. Ah bah là sur ce coup-là oui. Il y aura, on sera tous unis, effectivement.
Auteur également.
Tout à fait, toujours.
Absolument. Face à vous, eh bien, c'est un autre débatteur influenceur, Ménad. Comment ça va, Ménad?
Très bien, Adil, et vous?
Très bien. Vous êtes frais, tout va bien pour vous.
Absolument.
Vous êtes consultant en numérique, ancien aussi élu de la ville de Rosny-sous-Bois.
Absolument.
Vous êtes toujours dans la vie politique?
Toujours.
Toujours, plus que jamais. Messieurs, tout de suite, vous savez quoi? Nous allons démarrer eh bien, avec ce premier sujet. C'est celui qui a retenu notre attention, tout premier d'ailleurs. Tiens, on va commencer même d'ailleurs avec le « Mangez vos morts ». Tiens, « Mangez vos morts ». Ça, c'était une déclaration, une sortie de la députée Obono qui, évidemment, dit la chose suivante. Alors, elle a voulu évidemment tacler Sandrine Rousseau, elle a voulu s'adresser aux écolos. Est-ce que c'est raté, pas raté? Est-ce qu'elle a voulu faire le buzz? Elle a provoqué une grosse polémique. La députée a tenté d'expliquer hier sur BFM. On avait diffusé l'extrait hier, rappelez-vous. Cette expression malheureuse ou pas, d'ailleurs, c'est à vous de la juger. Daniel Obono, eh bien, avec son tweet. Bonjour à toutes et à tous, sauf aux gens qui instrumentalisent la lutte des femmes en Iran contre l'oppression pour insulter et disqualifier la lutte des femmes en France contre l'oppression. Eh bien, cela, mangez vos morts. Elle s'est fait tacler, hein. Jimmy Dalidou.
Ouais, bon, après, oui, effectivement, c'est peut-être pas forcément la bonne approche, mais même si elle est députée, on est tous des humains, je pense qu'elle a utilisé, bon, effectivement, sur le fond de ce qu'elle a voulu dire, mm-hmm. c'était effectivement que la lutte des femmes, la lutte pour le droit des femmes est vitale et nécessaire, et que c'est absolument pas normal qu'il y ait des dérives à ce niveau-là, des dérives politiques. Mm-hmm. Au départ, on a une lutte qui est juste, hein, qui a été portée par de grandes femmes, hein. Notamment pendant la Commune de Paris, etc. Et le problème, c'est que cette lutte pour le droit des femmes est frelatée et récupérée à des fins de dérive politique. Et on s'aperçoit qu'effectivement, c'est dommage parce que
alors ce matin, elle a dit que c'était une. J'ai dit ça sous une forme de boutade. Bon.
Ouais, c'est
ça
fait.
Un peu trop tard. Hein,
ouais,
On peut le sentir comme une insulte quand même. Hein.
Ouais, mais elle a été voilà, elle a utilisé des termes qui sont pas voilà, c'est pas forcément la bonne approche. Elle s'est laissée emporter par ses émotions. C'est une femme qui est députée. Ça doit pas être évident pour elle, hein, quoi qu'on en dise. Même si je suis pas forcément d'accord avec la ligne politique de la France insoumise, hein, ça a rien à voir. Mais être une femme et en plus être députée et en plus d'origine avec une origine d'une origine sociale différente, etc. C'est pas évident. Elle s'est laissée emporter. Moi, franchement, je la comprends. Voilà.
Monsieur Ménad Ouchenir, qu'est-ce que vous dites, vous, justement, après elle rebrouche chemin, hein?
Bah, sur le fond, son tweet avait très bien commencé, j'ai envie de vous dire.
Rétropédalage, hein.
Et puis sur sa dernière partie, effectivement, comme pour reprendre ce que disait Laurent Berger, c'est niette, hein, cette expression-là. On a quand même, je vais parler un peu francophonie, tiens, Adil, une langue qui nous permet quand même d'aller dans la nuance. Voilà, c'était pas une boutade, c'était clairement une injure. Il y avait 15 000 façons de le dire, parce que c'était effectivement bien dit. Il y a bien des gens qui instrumentalisent le combat des femmes iraniennes.
Et elle le dit bien.
Et oui, mais
ce qu'elle dit avant, d'ailleurs, c'est très bon.
Un peu comme le. Vous vous rappelez le coup de tête de Zidane à Materazzi? Eh ben, ça avait bien commencé. Puis à la fin, il y a ce coup de boule qui vient tout casser. Et ce qui fait que maintenant, on ne parle que de la dernière partie de son tweet, qui a complètement occulté la première partie de son tweet, qui était finalement l'aspect intéressant de la chose.
Exact.
Donc, Madame Obono, carton, jaune sur ce coup-là. Puis, pour le coup, après, sur le combat et puis la députée elle-même, honnêtement.
Alors, la France Insoumise, déjà, est fragilisée, évidemment, par l'affaire Quatennens. Mais en plus, est-ce que ça ne vient pas encore plus fragiliser, évidemment, la France Insoumise? La France Insoumise, c'est bon, en ce moment, c'est pas terrible. Hein.
Bah, c'est pas le top.
Hein.
Mais bon. Encore une fois, bon, il y a une lutte qui est importante. Non, il y a quand même, faut pas oublier que cette lutte-là, elle date de longtemps, parce que je pense notamment à Louise Michel lors de la Commune de Paris, qui a été à l'avant-garde de la lutte pour le droit des femmes. Et beaucoup de femmes actuellement ont repris le flambeau. Encore une fois, alors que ce soit au niveau national ou au niveau de la politique intérieure ou au niveau de la politique extérieure, la lutte pour le droit des femmes est malheureusement récupérée à des fins de répression politique. Et c'est ça qui l'a un peu énervé. Mais je la comprends. Franchement, c'est pas une approche intelligente, effectivement, de dire mangez vos morts, surtout que c'est une grosse insulte, mangez vos morts.
Il y avait 15 000.
Mais je la comprends. Ouais, je comprends pourquoi elle s'est laissée emporter, en fait.
Ah, mais c'est une élue.
Bah oui, mais bon, on est tous des humains, même si on est élus, en fait. Donc, Alors, je dis encore une fois, c'est pas la bonne approche.
Et pourtant, on parle d'exemplarité de plus en plus. C'est ça qui est.
On parle d'exemplarité. Après, j'ai envie de dire que chacun balaye devant sa porte. Soit on élit des humains, soit on élit des machines. On n'aura pas le même résultat. Voilà, Madame Obono a fait déjà quelques sorties qui ont déjà été remarquées, qui ont fait couler de l'encre. Une de plus, ce qu'il faut regarder, moi ce que je regarde en fait après c'est le travail de la députée, ses convictions, ses combats. On peut pas dire que ce soit une femme insincère, elle a des vrais combats, elle les mène vraiment avec ses tripes. Et quand on travaille avec ses tripes plutôt qu'avec sa tête, de temps en temps on dérape. Voilà.
Donc, c'est comme Bompard, son collègue député, pareil aussi, il travaille avec ses tripes, mais quand il fait sa sortie en disant « ouais, il nous met une claque, c'est rien », c'est aussi un
Il a merdé complètement. Parce qu'une claque, c'est pas rien.
C'est pas rien.
Donc, il a merdé. Là, je comparais pas tout à fait les deux, moi, Adil, parce que il a vraiment relativisé le sort de la compagne d'Adrien Quatennens. Lui, on lui collerait une claque, il se scandaliserait. On collerait une claque à sa femme ou à sa compagne ou son compagnon, je sais pas, mais il se scandaliserait aussi. Donc, pour moi, les deux sorties ne sont pas vraiment comparables. Madame Obono, bon, elle s'est foirée sur ce coup-là et clairement. La cause était bonne, mais
c'était avec un réveil matinal en disant c'est un tweet de boutade, ça veut tout dire.
Non, c'est pas une boutade. Boutade, il y a une définition de la boutade. La boutade, c'est un petit trait d'humour. Voilà. Là, on est sur carrément de l'injure. Bon, ça va pas.
Ça va pas. Elle a déconné.
Attendons de voir la suite et puis son travail parlementaire, c'est plutôt sur ça, je pense qu'il faut la juger.
Après, elle a peut-être compris qu'il faut faire du buzz pour faire parler de soi et puis forcément peut-être qu'elle a.
Que c'était une sortie pour faire du buzz.
Je sais pas.
Non
ça rend pas dans sa tête.
Mais,
il y en a qui le font.
Attention, la France Insoumise est déjà. Là, ça va pas du tout pour eux. Est-ce que c'était le.
Bah, vous savez bien que
c'était le moment d'en rajouter encore.
Du clash, ça existe aussi. La politique du clash, du buzz, ça fonctionne. Il y en a qui l'ont compris. Donc, alors je sais pas. Je suis pas dans sa tête.
Mais on parle d'une cause sérieuse comme l'oppression des femmes. On parle de.
Et là, elle a complètement occulté.
Vous connaissez le monde de la politique. Le monde de la politique, c'est un peu particulier.
La surface médiatique qui aurait pu être un peu plus celle du combat pour lequel Madame Obono s'était exprimée a été quelque part saisie par ce bad buzz, voilà, qui en est un. Donc moi, ce que je regrette, c'est qu'effectivement, ça prenne de la surface médiatique, alors qu'il y a plein d'autres sujets. On parle du combat des femmes, mais il y en a d'autres, des sujets d'actualité qui nous concernent et qui vont nous concerner de plus en plus. Je parle des prix de l'énergie et autres. Qui aurait pu prendre cet espace médiatique. Donc arrêtons les histoires de bad buzz pour faire parler de soi, parce que ça vient.
Mais c'est aussi aux médias de prendre la responsabilité.
Ouais, eux, ils ne feront que traiter, évidemment.
Oui, en même temps, s'ils mettent en avant un tweet, on a l'impression que les médias maintenant, ils regardent tous les tweets.
Donc on laisse passer le tweet alors. C'est-à-dire que Madame Obono,
c'est qu'il y a d'autres sujets plus importants.
Elle aurait pu passer. Je pense notamment. Et on n'en parle pas.
Je pense notamment à l'assurance chômage, à la retraite à points. Je pense à l'économie qui se casse la gueule. Tout ça, ce sont des sujets qui devraient prendre la plateforme.
Mais on tape souvent sur les médias, on dit souvent les médias, voilà. Oui, ils ont. Mais
on a l'impression que les médias, ils sont en train de passer leur temps, donc, ils sont payés à passer leur temps.
Ça veut dire, elle peut tenir ce genre de propos, on laisse passer, on laisse couler.
Ça ressemble quand même à une sortie spontanée qui venait justement des tripes plutôt qu'à un bad buzz savamment préparé, comme il en existe par ailleurs, entre nous. Après, je ne suis pas dans la tête de Madame Obono, de la députée Obono, mais ça ressemble quand même à une gaffe qu'elle a faite sur un moment d'emportement.
Je vous promets, quand je l'ai lu, vraiment, très sincèrement, je croyais que c'était une fake news. Je vous promets, quand j'ai reçu le SMS, on me l'a envoyé, on m'a dit, ouais, il faut que tu le traites. On me l'a envoyé, on m'a dit, il faut que tu le traites absolument. Ma parole, je pensais que c'était fake news. J'ai été vérifié.
Le Gorafi.
Et quand j'ai vu que c'était vérifié, la véracité de l'info, j'ai dit, non, c'est pas possible.
Absolument. Je pense qu'on est plusieurs à avoir eu cette réaction d'aller vérifier deux fois, comme le tweet du préfet de l'Hérault ou autre lui aussi a défrayé pas mal la chronique. D'ailleurs, il l'a supprimé, il qualifiait.
Et la différence, par exemple, on parlait de l'affaire Quatennens, c'est pas vraiment pareil, parce que
c'est un tweet
d'une députée, sur sa page Twitter de députée. Quatennens était dans un cadre privé longtemps avant. Je ne pense pas qu'on puisse faire de lien entre les deux, ça n'a rien à voir.
Les médias s'en sont emparés. Mais simplement, ça fait aussi, et je rejoins un tout petit peu ce qui vient d'être dit, ça crée ce qu'on appelle un produit d'actualité. Ce n'est pas une information en soi, c'est un produit d'actualité. On sait qu'en parlant, on va générer un peu d'audience, on va monétiser un peu tout ça, etc. Et c'est un peu, effectivement, l'effet pervers de ce genre de sortie, puisque, encore une fois, la première victime, entre guillemets, de cette sortie, c'est le combat, dont on parle un peu moins, au profit d'un tweet.
Dont ça n'ira pas dans le sens de la France insoumise.
Bon, en tout cas, sachez-le, messieurs, elle plaide la boutade, pardon, donc depuis ce matin 8h, avec un tweet matinal en disant que c'était évidemment une boutade après, évidemment, cette sortie d'un tweet extrêmement remarquée. Pardon, Ménad,
je disais qu'elle avait injurié personne nommément. Donc, voilà. Passons.
Ouais.
Ah, pas nommément, pas, ouais. Elle a pas nommé effectivement
oui,
quelqu'un,
oui,
parce que là,
mais
ça aurait
été l'injure
publique, mais simplement, voilà, passons outre ce sujet-là, il y en a des beaucoup plus importants dans l'actualité.
Ouais. Allez, messieurs, tout de suite, le débat continue, vous le savez, on va marquer donc une pause et on se retrouve dans une poignée de minutes avec vous, y compris au 01 53 48 3000, c'est les informés, c'est aussi votre magazine, avec Ménad Ouchenir, mais également aussi avec Jimmy Dalidou, à tout de suite.
Les informés reviennent dans un instant. 18h, 19h30, Les Informés, présentés par Adil Farkan sur Beurre FM.
Bien, chers amis auditeurs, si vous venez de nous rejoindre, sachez-le, Les Informés, c'est avec vous au 01 53 48 3000, mais également aussi avec nos débatteurs influenceurs. Un ancien élu de Rosny-sous-Bois, mais aujourd'hui consultant en numérique, il s'appelle Ménad Ouchenir, mais également aussi face à lui, l'autre révolutionnaire à nous, c'est Jimmy Dalidou, le représentant syndical CGT, mais également aussi auteur.
Beurre FM, 18h, 19h30, Les Informés, présentés par Adil Farkan.
Autre sujet, Sandrine Rousseau, vous savez, Europe Écologie Les Verts. Eh bien, elle est allée trop loin. Ça, c'est une déclaration de Julien Bayou. Julien Bayou, ex-secrétaire général, après des accusations très dures, très violentes à l'égard, évidemment, envers l'ex-compagne, donc formulée par Sandrine Rousseau, sur un plateau de télévision où elle a annoncé ça. Bon, tout le monde était surpris. Eh bien, aujourd'hui, Julien Bayou s'exprime dans le journal Le Monde. Il a pris le temps, évidemment, de revenir sur ces différentes déclarations. Et puis, il le dit clairement. Elle dit clairement, en gros, elle est allée trop loin. Est-ce que vous êtes d'accord avec Julien Bayou, Ménad Ouchenir?
Oui.
Oui. Ben alors, on vous écoute. Pourquoi?
Parce qu'effectivement, elle est allée trop loin à exposer une histoire qui finalement relève du domaine privé sur un plateau télé à une heure de grande écoute. C'est juste pas ce que, en tout cas, j'espère, les Français attendent, premier point. Deuxième point, cette espèce d'instance interne qui avait vocation à traiter ou statuer sur le dossier, une espèce de politburo, le retour des politburo. Là aussi, moi, je m'interroge un petit peu sur l'intérêt de ces dispositifs-là, si ils ne consistent pas uniquement à transmettre à la justice des éléments. Et puis, effectivement, on est sur, à mon avis, c'est vraiment qu'un point de vue personnel, mais un règlement de compte, un bon vieux règlement de compte interne dans un parti, puisqu'on sait que Sandrine Rousseau, bon, elle n'est pas passée loin de l'investiture à la présidentielle, d'une part, 49 et quelques, donc c'était pas très loin de Yannick Jadot, qui l'avait ensuite éjecté de l'équipe de campagne, et qui, derrière, je pense qu'elle a aussi peut-être des ambitions sur le parti, qu'elle avait déjà essayé de
les règles du parti.
Voilà. Mais on est sur un règlement de compte politique, parce que ça aurait pu se régler, y compris dans l'intérêt de la victime présumée, se régler de manière tout à fait conventionnelle, privée, avec des institutions qui fonctionnent en France, alors pas assez vite, etc., mais elles fonctionnent, ça s'appelle la justice pénale là-dessus. Non, non, elle a choisi de prendre ça, de le jeter sur la place publique, comme ça, ça va aller étrier Julien Bayou, peut-être que, et pardon de faire un peu de psychologie de comptoir, c'est peut-être aussi une revanche qu'elle a essayé de prendre par rapport à l'affaire Baupin qui avait été classée sans suite pour des raisons de prescription. Donc moi, je sais pas ce que cherche Madame Rousseau formellement, la présidence du parti, de la visibilité, du buzz, etc. Mais là encore, un peu comme tout à l'heure, la cause des femmes qui sont harcelées n'est pas forcément la mieux servie avec une sortie comme celle-là. Et dans les faits, si Monsieur Bayou venait à être acquitté, hein, formellement, de ce dont on l'accuse, qu'est-ce qu'on...
Bah, il a quitté son poste déjà de secrétaire, donc...
Oui, mais voilà. Mais ouais. Alors, ELV, je suis pas forcément ELV, hein, ça vous le savez. Mais là, c'est-à-dire qu'on a un président de parti qu'on a déstabilisé, c'est-à-dire qu'il faut remettre en place des instances, des choses comme ça, ça vient casser un peu une dynamique, un parti qui avait sa dynamique, voilà, qu'on la partage ou pas, pour une affaire qui peut-être n'est rien, ou qui, si effectivement il s'avère qu'il y avait quelque chose, c'est à la justice, effectivement, de trancher, et puis naturellement, les conséquences partisanes, ça, il y a des instances internes au parti dont c'est la fonction.
Jimmy Dalidou, ouais, vous en pensez quoi, effectivement?
D'une manière générale, on s'aperçoit qu'en fait, la lutte des classes s'est transformée en lutte des places, et que pour récupérer les rênes d'une organisation politique... souvent les politiciens actuellement, quelle que soit la formation politique, hein, quelles que soient les formations politiques. Souvent, il n'y a plus beaucoup de politiciens au final qui militent sur des bases de conviction. C'est souvent sur des bases opportunistes.
Je suis absolument d'accord avec
Et la deuxième chose, malheureusement.
Non, c'est pas qu'il y en a plus.
Juste finir ce que je disais. La deuxième chose, c'est que.
Non, mais on reviendra sur ça. C'est très important ce que vient de dire Jimmy Dalio.
Il y a une dérive en ce moment qui est que. Je pense que c'est important, pour une chose importante, qui est une muraille de Chine doit être établie entre le cadre privé et le cadre public. Pourquoi? Parce que pour l'instant, tout va bien. Pour l'instant, on est dans une dictature du capital, mais avec des souplesses sociales, etc., tout va bien. Mais si on accepte que cette muraille de Chine entre le cadre privé et le cadre public saute, ça veut dire qu'on accepte que cette logique s'étende à d'autres moments et à d'autres moments et lorsque d'autres forces sociales pourraient être au pouvoir. Ce qui est logique. Admettons que demain.
Alors, on voulait un régime, justement.
Non, mais admettons que demain, un régime très autoritaire se mette en place. Pour pas dire fasciste. Qu'est-ce qui se passerait? On accepterait, si on accepte cette logique de ne pas établir une ligne de démarcation ferme entre le public et le privé, alors on accepterait d'étendre cette logique à d'autres niveaux. Et si demain un régime fasciste arrive au pouvoir, on leur ouvrirait la porte et vous leur donnez l'autorisation de venir chez vous. C'est ça que ça veut dire. Donc, une muraille de Chine doit être mise entre le cadre privé et le cadre public. Ça en va aussi de la responsabilité des médias.
Mais attendez,
médias,
pardonnez-moi Julien.
Qui, souvent,
Julien Bayou, j'allais dire. Mais Jimmy Dalidou, c'est des figures politiques.
Ouais, mais après,
Jimmy Ayou, c'est pas n'importe qui.
Tout à l'heure, mon contradicteur
parlait
de justice.
Mais vous dites qu'il faut faire la séparation entre la vie privée.
Normalement,
je suis d'accord avec vous.
La justice, mais, il faut laisser.
Oui, il y a la justice.
La laisser faire son boulot.
Il y a la justice, et vous avez raison de le rappeler, qui fait son travail et qui le fait très bien. Mais il y a également aussi celui qui s'étale sur la vie publique, c'est-à-dire c'est une personnalité publique. Donc forcément, si à un moment donné il est éclaboussé par un sujet, ça s'étale.
Surtout qu'en plus, comme par hasard, c'est Julien Bayou était dirigeant de ELV et forcément, encore une fois, la plupart des militants, pas tous, hein, heureusement d'ailleurs, certains ne militent pas sur des bases de conviction, ils militent sur des bases opportunistes. Ce qu'ils veulent, c'est des carrières. Ce qu'ils veulent, c'est le fric qui va avec les mandats.
Tiens, revenons sur ça, là, justement. Vous dites que la conviction n'existe plus. Mais là, vous vouliez dire
que... Oui, je suis persuadé que beaucoup militent sur des bases opportunistes. Pas sur des bases de conviction.
C'est fini, il n'y a plus de conviction, plus de politique.
Je pense que quand on a des médias, des mandats et l'argent qui va bien avec, on cherche les carrières, les mandats et le fric, et au détriment des convictions. Ça, j'en suis certain.
Vous êtes d'accord avec ça?
Je pense que les...
C'est important ce que vient de dire Jimmy, hein.
Bien sûr, mais je pense qu'effectivement, dans le personnel politique, et notamment le nouveau, se raréfient les personnes qui s'investissent pour un combat, d'abord un combat d'idées. Ça se raréfie, c'est clair. J'ai envie de dire, parce qu'on parle des élus, parlons des électeurs. Je vais être un peu provocant là-dessus. Prenez n'importe quel électeur, n'importe quelle élection, les présidentielles par exemple, ou même des législatives plus près de nous, et demandez à un électeur lambda, est-ce que vous avez lu le programme, et citez-moi une ou deux mesures de tel ou tel candidat. Personne va être capable de vous répondre. Parce que les électeurs aussi, ils vont vous dire « Ah, je vote pour lui parce qu'il parle bien. » L'exemple de, toujours quelqu'un dont je ne suis pas forcément politiquement proche, mais Jean-Luc Mélenchon, qui lui a ce, alors je ne dirais pas muraille de Chine, mais plutôt cordon sanitaire entre sa vie privée et sa vie politique. Il y a beaucoup de gens qui ont voté pour lui pour le charisme du bonhomme, qui ne sont pas capables forcément de vous citer.
Beaucoup m'en ont parlé, me disaient « On a voté Mélenchon parce que c'est le charisme, parce qu'il a des grandes gueules. »
Mais Macron aussi a gagné sur la base également de son charisme, mais très peu d'électeurs, à mon avis, dans le corps électoral français, votent d'abord pour les idées de quelqu'un.
On vote désormais pour une personne.
On vote surtout. C'est la pondération qui est un problème. C'est-à-dire que, bien sûr, il faut voter pour les personnes. Moi, j'y crois, hein, quand on dit quelqu'un du peuple, élu par le peuple, pour le peuple. Il faut aussi voter pour une personne, quelqu'un qui est capable d'incarner, l'incarnation des idées. Parce qu'une idée, elle est immortelle, mais si elle est mal incarnée, de toute façon, elle ne prendra pas. Donc, l'incarnation est importante. Mais il ne faut pas confondre aussi. Et c'est là que j'ai l'impression qu'il y a aussi un petit... problème sémantique, si ce n'est philosophique, confondre exemplarité et vertu. La vertu absolue, personne ne l'a. On est 7 milliards d'êtres humains. Je suis sûr que chacun a un petit coin sombre dans sa tête, plus ou moins grand, plus ou moins étendu. En revanche, l'exemplarité, effectivement, éviter de faire un tweet comme Madame Bonneau, éviter malmener sa femme quand on n'est pas d'accord, etc. Ça, on a un peu plus de maîtrise là-dessus. Donc moi, la vertu, personnellement, je m'en fiche parce que c'est pas possible de l'avoir et on l'aura jamais, et encore moins sur du personnel politique.
Sauf si t'es un sage.
Et encore, Adil, j'ai envie de vous dire, on est humain, on est des machines imparfaites.
C'est un petit peu lié. En fait, c'est une dérive, d'une manière générale, c'est une dérive qui est liée, c'est une dérive que le capital a semé dans les esprits, qui est lié au libéralisme, à l'individualisme et ces choses-là, qui consiste à dire qu'en fait, ce qui génère le mouvement de l'histoire, ce sont des personnages. Mais c'est pas vraiment ça. Ce sont des personnages organisés, mais qui véhiculent des idées.
Des personnages organisés.
Et qui véhiculent des idées. Et qui, à un moment, ils mettent en exergue des idées. Ouais. Et non, mais c'est ça, toute la nuance.
J'entends ce que vous dites.
Quand on devient légitime et qu'on devient une force morale, on devient une force morale légitime par la puissance des idées et des convictions. Comme par exemple Ernesto Che Guevara. Ernesto Che Guevara, s'il était le Che, c'est parce qu'il y avait le mouvement du 26 juillet. Mmh. Si le mouvement du 26 juillet n'existait pas, Ernesto Che Guevara n'aurait jamais existé. Vous voyez? Donc en fait, ça, c'est une dérive populiste.
Une dérive populiste aujourd'hui. Alors oui, c'est vrai, c'est une question fondamentale. Je prendrai le temps d'en parler. Revenons juste simplement sur l'affaire Bayou. Alors vous nous avez développé toute une analyse, mais pour revenir au sujet de Bayou, Jimmy Dalidou, qu'il a eu raison effectivement? L'homme blessé. On sent, dans le cas de cette interview accordée au journal Le Monde, on sent l'homme blessé, on sent l'homme atteint, on sent l'homme aussi psychologiquement un peu déstabilisé. Quand il dit qu'elle est allée trop loin, quel message veut-il lancer à Sandrine
Rousseau? Je suis d'accord avec lui, parce qu'on a l'impression que le gars, il est condamné.
Parce que c'est ça que je veux qu'on décrypte, prendre le temps de décrypter. Parce que quand il dit qu'elle est allée trop loin, en gros, il y a un message. On voit bien qu'il y a un message. En filigrane, on voit bien qu'il y a un message qui est porté.
Le problème, c'est ce qu'affirme Sandrine Rousseau, elle affirme quelque chose, alors que c'est un personnage public important, et elle sait très bien qu'en fait, ce qui se passe, c'est que, je le comprends, monsieur Bayou, c'est qu'il est condamné, alors que le processus judiciaire n'est pas terminé. Alors, à un moment, arrêtons avec ça. Arrêtons de condamner les gens alors que la justice n'a pas terminé. On a l'impression que l'opinion publique, et enfin, en tout cas, que l'opinion médiatique se substitue aux prérogatives de la justice. Arrêtons avec ça. Donc arrêtons de condamner, on va voir si la justice dit que... Et c'est pas uniquement Monsieur Bayou, ça fonctionne à tous les niveaux pour n'importe qui. Il faut pas condamner une personne alors que le processus judiciaire n'est pas terminé. Autrement, on arrête avec la justice, on arrête avec les juges, on les fait sauter, on donne tout aux médias, aux gouvernements, puis ils décident d'eux-mêmes sans la justice dans ce cas-là.
Là, ça s'appelle un régime autoritaire.
Voilà, c'est pour ça qu'il faut laisser la justice.
Totalitaire. Ménade, vous voulez rajouter quelque chose? Non.
Je peux rajouter quelque chose éventuellement, mais je pense que l'essentiel a été dit. Les institutions, à commencer par la justice, effectivement, c'est à elles de faire ce travail-là. Moi, je pense que Madame Rousseau savait très bien ce qu'elle faisait.
Je pense aussi.
En balançant ça sur un plateau à une heure de grande écoute, et qu'elle a forcément, il y a la stratégie personnelle et la stratégie de groupe.
Bien sûr.
Voilà. Et que, effectivement.
Vous l'avez dit tout à l'heure, probablement derrière le monde.
Il y a aussi, moi, je fais un petit appel pieux, un vœu pieux, mais de dire aussi aux téléspectateurs, aux auditeurs, à l'audience, arrêtez de tomber dans le panneau. Arrêtez de tomber dans le panneau quand quelqu'un balance un truc comme ça sur un plateau. C'est très bien que c'est pour susciter non plus la raison, mais la passion, et que cette passion, elle va aller obliger un gars à démissionner d'un poste de président de parti qu'il a conquis, on va dire, de manière très régulière. Et arriver à un danger, parce que le mieux étant l'ennemi du bien, on ne sait pas qui va prendre sa place, on ne sait pas ce qui va se passer.
Jimmy. La raison engendre la passion, mais la passion ne se substitue pas à la raison.
Autre sujet, on va marquer la pause et on reviendra, vous savez, sur l'affaire Colère, le secrétaire général, le deuxième numéro 2 quand même de l'Élysée. Lui aussi, évidemment, aujourd'hui, mis en examen. On parlera aussi d'Éric Dupond-Moretti. Ça chauffe partout, dis donc. Enfin bref, ça chauffe. Quand je dis ça chauffe, ça veut dire que l'opposition, c'est elle qui chauffe. C'est les esprits qui chauffent. À tout de suite, ne bougez pas, restez avec nous.
Les informés reviennent dans un instant. 18h, 19h30, Les Informés, présentés par Adil Farkan sur Beurre FM.
Toujours un plaisir de vous retrouver, vous le savez, Les Informés. Les Informés, c'est vous aussi, au 01 53 48 3000. Les Informés avec Ménade Ouchenir, ancien élu de la ville de Rosny-sous-Bois, mais également aujourd'hui consultant numérique. Face à lui, c'est Jimmy Dalidou, avec comme casquette le représentant syndical CGT, mais également aussi auteur. Messieurs, tout de suite, un sujet qui a retenu notre attention. Je veux parler de l'affaire Éric Dupond-Moretti, mais également aussi celle d'Alexis Colère, qui est mise en examen. Le secrétaire général de l'Élysée a été mis en examen il y a à peine donc quelques jours pour prise illégale d'intérêt dans l'enquête de ses liens avec l'armateur donc MSC, pardonnez-moi, le bras droit, c'est comme ça qu'on le nomme, le bras droit d'Emmanuel Macron, reste en poste aujourd'hui. Éric Dupond-Moretti, il dit « Sa démission n'est pas à l'ordre du jour. Jimmy Dalidou. » Bon, que faut-il comprendre? Parce que là, franchement, bon, deux affaires différentes, mais en même temps, l'un et l'autre sont toujours en poste.
Bah, ils sont toujours en poste, c'est un gros problème.
Et le garde des Sceaux aussi est soupçonné d'un conflit
d'intérêt. Et le problème, c'est que, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais la plupart de nos hommes politiques, il y a toujours un moment où ils sont mis en examen, forcément. Et ça commence, ça pose, on parlait de légitimité tout à l'heure, ça pose vraiment, là on y est en fait. Comment se fait-il que des personnes qui se disent dirigeants, parce que c'est pas les seuls, hein, ils se disent dirigeants, représentants, représentants de la raison dans une certaine mesure, tout à l'heure on parlait de raison, bah oui, parce que membre du gouvernement, à partir du moment où t'es membre du gouvernement, tu représentes dans une certaine mesure la raison, parce que c'est une densité de raisons, finalement, au gouvernement, c'est comme ça que ça se présente. Et au final, ce sont des gens qui ne sont pas légitimes, parce qu'à un moment, alors pas tous, mais la plupart d'entre eux sont mis en examen. Alors non seulement ils sont mis en examen, alors ils continuent à avoir leur mandat, ils continuent à toucher le fric qui va bien, ils gardent leur poste. Alors je rappellerai aussi que dans le même temps, lorsque vous êtes gilet jaune et vous portez un gilet jaune, vous prenez une amende et vous allez en garde à vue. Voyez ?
Donc ça, deux poids deux mesures, vous voulez dire.
Voilà, deux poids deux mesures qui démontrent bien que nous sommes dans une dictature.
Donc l'opposition, capital, vous l'entendez, vous êtes d'accord avec elle. Non, l'opposition qui multiplie donc les appels à la démission, vous êtes d'accord.
Il doit partir, et non seulement il doit partir, mais de plus, il c'est pas le seul à devoir partir. À partir du moment, alors encore une fois, on en parlait tout à l'heure, je serais en contradiction avec moi-même si je disais s'il y a des procédures judiciaires, elle doit aller jusqu'au bout. Mais la mise en examen, c'est assez particulier, la mise en examen. Parce que c'est lié, à l'initiative d'un juge d'instruction. Oui. C'est-à-dire que le juge d'instruction, il ouvre pas un dossier, il décide pas comme ça du jour au lendemain de mettre quelqu'un en examen. Alors que le juge d'instruction, il a un nom, il a un prénom, il a un dossier, il a des éléments objectifs importants.
Mais c'est une enquête en cours.
C'est une enquête. Oui. Et là, il y a trop de flou. Et le juge prend la décision de mettre un gars en examen. Non, c'est-à-dire forte probabilité qu'il soit
Il n'est pas condamné.
Pas condamné, mais condamnable. Vous voyez?
C'est pas le cas.
Donc, le gars, monsieur Kohler, il devrait démissionner de même que monsieur Dupond-Moretti. Parce qu'ils ne sont pas légitimes.
Là, c'est le discours.
Non, ça, c'est encore autre chose légitime.
Un peu facile. Un peu facile. Tous les politiciens, tous pourris, etc.
Quand on est
gilet, ou en tout cas pour beaucoup, etc. Déjà, quand on s'investit dans le combat politique, on n'a pas vocation à représenter une quelconque raison. Etc. La raison, c'est une notion relative. Hein. La raison pour vous ou pour moi, c'est pas la même. Et à l'autre bout du monde, c'est pas la même, etc. Donc, moi, je m'élève en fou contre le lien entre politique et raison. Ensuite, une mise en examen. C'est quoi une mise en examen? Effectivement, c'est au terme d'une instruction. Mais une mise en examen, vous n'êtes même pas encore envoyé devant un tribunal.
Non.
Donc, on n'est même pas encore au début d'un jugement, d'un procès avec. Voilà. Donc, il faut raison garder. Et puis, désolé, la mise en examen, c'est aussi un sacré bon outil pour aller déstabiliser du politique. Là, le secrétaire général de l'Élysée, bon, bien entendu, c'est le président.
Ça veut dire que la justice est une justice qui décide de déstabiliser un politicien
qui est embarqué et qui se prend une amende. C'est parce que
c'est grave ce que tu dis.
Non, mais quand on fait la comparaison,
c'est grave ce que tu dis. Ça veut dire que la justice décide d'ennuyer un politicien parce que les politiciens, parce que
c'est grave ce que je
dois partager.
Un gilet jaune qui se fait embarquer, qui prend une amende. Une amende, en général, ça relève de la contravention. La contravention, c'est parce qu'on a constaté effectivement une infraction. C'est comme quand on se prend un PV sur la route.
Bah, t'as pas compris ce que je dis.
Donc là pour le coup, c'est pas la même juridiction, c'est pas le même niveau de d'incrimination, si j'ose dire. Donc il y a mise en examen parce qu'un magistrat instructeur dans toute indépendance a décidé de mettre en examen. Ça peut ne déboucher sur rien, ça peut être classé sans suite, ça peut être renvoyé devant le tribunal correctionnel, mais c'est ce qu'on dit depuis tout à l'heure. Alors quand c'est pas pour les politiques, quand c'est pour certains, faut attendre que l'institution fonctionne, et quand c'est pour d'autres, ils doivent démissionner tout de suite. Dans ce cas précis, et comme dans tous les autres, c'est injusticiable comme un autre.
Tout le monde démissionne.
Et on attendra. Et puis accessoirement sur.
Bah, alors, tout le monde part.
Je suis pas l'avocat de ce colère ni quoi que ce soit, mais. Qu'on reproche, quand on fait de la politique, il faut parler aux gens. Il y a eu l'affaire avec Uber, je sais pas si vous vous rappelez.
Oui,
où
bien.
On reprochait, l'ancien ministre de l'économie, actuel président, ses liens avec une entreprise. Mais c'est normal de parler à des entreprises quand on fait de la politique, que de parler, bien sûr, à ses concitoyens, des gens, parler à des boîtes. Et puis, à un moment, effectivement,
tu parles de l'uberisation de la société.
À un moment, non, bon, on peut parler de n'importe quelle entreprise,
il faut dérouler le tapis rouge aux multinationales,
à un moment, quand on est politique, on n'a pas forcément avec le monde monde économique, comme on en a aussi avec le monde artistique, on peut en avoir avec le monde sportif, pour certains, on a eu des anciens sportifs qui ont fait de bons ministres. Donc, quand on est politique, on se doit d'avoir des liens avec tous les milieux qui font.
Donc, vous l'entendez, Samena Douchener, quand il dit, évidemment, l'Élysée, donc, s'est contenté de diffuser un communiqué des avocats d'Alexis Kohler pour dissocier à la fois la présidence et les déboires du haut fonctionnaire.
Absolument, mais oui. Attendons que ça avance. Et puis, si, prenons Claude Guéant, un ancien secrétaire général de l'Élysée, qui a eu des problèmes, qui a été condamné, qui a fait pardon,
qui a mis les valises pleines d'argent dedans.
Oui, mais il y a eu enquête, il y a eu preuve, il y a eu sanction, il y a eu peine, et il a fait de la tôle. Pardon, de vous le dire. Et là, M. Kohler est très très loin de ça encore. Donc attendez que ça finisse, attendez que ce soit géré, et puis on se scandalisera quand l'enquête aura prouvé des choses, ou alors effectivement si il est relaxé, ce qui peut arriver également. Moi, j'attends des uns et des autres qui l'ont justement tapé de venir peut-être dire pardon, je me suis trompé, parce que
Jimmy Dalidou, vous l'entendez?
Ouais. Ouais. Ouais, non, mais enfin, je reviendrai sur ce que tu disais, par exemple, ce que je voulais dire, par exemple, quand je faisais le parallèle entre la contravention, etc., indépendamment de la forme que ça prend. Ce que je dis, c'est que on est dans une société qui, c'est une orientation de classe. Tu as toujours une optique de classe.
Alors, c'est Jean de La Fontaine.
C'est une optique de classe. C'est-à-dire que, ce qui me pose problème, c'est qu'on a des politiciens qui sont, pour la plupart du temps, ils ont beaucoup, pas tous.
Ça, c'est votre combat, ça, politique de classe.
Certains ont des casseroles au cul et ils ont des gars qui ont des procédures. On ouvre des procédures judiciaires contre eux. Je crois pas que la justice décide d'ouvrir une procédure judiciaire contre une personne parce qu'elle a envie, parce que etc., etc. Donc à partir de là, ce gars-là qui est dans un gouvernement et qui est ministre ou secrétaire général, à un moment il laisse sa place. Il y en a d'autres qui vont prendre sa place. À un moment, il se concentre sur la procédure judiciaire qui est en cours. Il se concentre sur qui prouve ce qu'il a prouvé s'il est innocent. Moi, ce qui me gêne, c'est que en fait, on a donc c'est ça que je voulais dire, c'est qu'on a une optique de classe. Encore une fois, je réaffirme que ça me pose un véritable problème que lorsqu'un gilet jaune porte un gilet jaune et il est condamné. Alors c'est pas seulement la contravention, il est condamné financièrement et moralement. Moralement, tu parlais de raison. La raison, elle est inhérente à la morale. Si tu veux, je peux t'en parler. C'est dans mon livre, L'Évangile de la philosophie de la Révolution, je développe sur la différence et les corrélations entre la morale et la raison. Donc ce que je dis, c'est que c'est pas seulement une question de contravention, c'est une question de morale. Quand tu condamnes un gilet jaune parce qu'il porte un gilet jaune et que dans le même temps tu laisses en place un gars qui a une procédure judiciaire, et ça pose un véritable problème parce que c'est d'abord une orientation de classe. C'est une optique de classe. On condamne le travail, mais on déroule le tapis rouge au capital.
Est-ce qu'on dit à un gilet jaune d'abandonner son boulot?
Vous répondez quoi?
Alors moi, je vais faire des chiffres, parce que une fois de temps en temps. 520 000 élus locaux en France, 577 députés, 348 sénateurs, plusieurs dizaines de ministres. Faites-moi un ratio du nombre de personnes qui ont des déboires judiciaires. Voilà. Donc déjà, le tous pourri, on repassera. Ensuite, est-ce qu'on demande à un gilet jaune qui travaillerait, je sais pas, dans la grande distribution ou dans l'informatique, comme moi, de démissionner parce que il a justement une mise en examen, par exemple, ou qu'il a même une condamnation, c'est-à-dire qu'il a une contravention ou autre? Est-ce qu'on lui demande de démissionner, de quitter son boulot dans l'absolu, et même s'il était condamné, j'ai envie de dire?
Chez les salariés, si ça existe. Chez les salariés, ça existe.
Il n'y a pas.
Certaines entreprises, à partir du moment où le salarié.
Vous semblez le
suggérer de partir. On le licencie même.
Il n'y a pas de caractère systématique. Et on ne les licencie pas toujours, parce que des salariés avec des casiers judiciaires dans certains.
Souvent, si on les licencie.
Il y en a, ça dépend des métiers, ça dépend des domaines. Et puis ça dépend aussi de la nature de l'infraction.
Pourquoi on peut licencier un salarié et qu'on ne pourrait pas licencier un ministre?
Parce que c'est pas un contrat de travail, c'est un mandat politique.
C'est une optique,
c'est une
optique de classe.
Pour le coup, un ministre, il est nommé. Le ministre est nommé, pour le coup. Donc, à la limite, on pourrait lui demander effectivement sa démission. Mais c'est pas un CDD au sens code du travail. Le code du travail ne régit pas le mandat d'un ministre, la fonction d'un ministre. Ce sont des institutions complètement différentes. Il faut arrêter de comparer l'incomparable. Je suis désolé. Il y a bien sûr, côté gilet jaune, moi je pense qu'il y a autant de cas que de personnes. Je fais pas des blocs, contrairement à certains, genre les gilets jaunes.
Par exemple, sur les gilets jaunes, on est sur le schéma général. Je parle des salariés. Tu peux pas nier cette réalité que les salariés, chez un salarié, certaines entreprises, notamment dans les grosses entreprises du service public, elles n'hésitent pas à licencier certains salariés parce que elles ont certaines activités à l'extérieur, etc., qui posent un problème au niveau de l'entreprise. Et lorsqu'il s'agit d'un politicien, il faudrait le laisser en place. Bah non, je suis désolé, mais ce que tu dis, c'est une optique de classe, encore une fois. Elle permet de dérouler le tapis rouge aux représentants du capital, mais d'affirmer la répression qui s'abat sur le travail.
Ménad Ouchenir,
justement,
on marquera une pause.
Qu'il existe des injustices dans le monde du travail, c'est clair. Enfin, moi, je nie pas du tout ça.
La justice sociale, c'est la base du système dans lequel on vit.
Et qui mérite d'être défendu. Puis qu'on arrête de la défendre, en général, elle régresse. Donc là-dessus, on peut même dire qu'on partage le même point de vue. En revanche, qu'un salarié se fasse mettre à l'écart en raison de ses convictions, etc. Mais le salarié, il a des recours. Il a des délégués syndicaux.
Avec la loi travail que le gouvernement a
charge de mener son propre combat pour prouver l'injustice dont il a été victime et obtenir réparation. On a encore des institutions qui fonctionnent, ce qui n'est pas le cas partout dans le monde. Faut regarder.
Tu sais bien qu'il y a des recours, mais ils ont restreint les recours empêchant le moins possible le salarié de se défendre.
Ça s'appelle le combat.
Par exemple, la loi travail et la réforme prud'homale. Donc tu as des salariés qui se font licencier, mais la réforme prud'homale fait que c'est plus compliqué de se défendre.
Une loi est votée par les députés sont élus par les gens. On en revient toujours au peuple. C'est le peuple qui a la maîtrise de son destin. Faut arrêter de s'inventer.
On marque une pause. C'est la dernière pause. Et la dernière ligne droite, justement, avec vous, messieurs, y compris au 01 53 48 3000. Très intéressant. On prend le temps, justement, de développer et de décrypter tout ça. Et je dois dire qu'effectivement, c'est assez passionnant. Allez, pause et on se retrouve tout de suite après.
Les informés reviennent dans un instant. 18h, 19h30. Les informés, présentés par Adil Farkan sur Beurre FM.
Dernière ligne droite, les informés, c'est avec vous aussi au 01 53 48 3000, mais également avec Jimmy Dalidou, représentant syndical CGT, mais également auteur, avec Monsieur Ouchenir, Ménad, messieurs l'un et l'autre, consultant, ancien élu de la ville de Rosny-sous-Bois.
Beurre FM, 18h, 19h30, les informés, présentés par Adil Farkan.
Est-ce qu'on peut dire qu'il y a un véritable bras de fer qui s'annonce autour de cette réforme de l'assurance chômage au menu de l'Assemblée nationale, mais également aussi tous les autres sujets. Vous savez, on va parler de la réforme des retraites. Il y a évidemment la loi du budget. Bref, beaucoup de choses. Et puis, en face, des manifestations qui sont annoncées pour la mi-octobre. Beaucoup de choses au menu, effectivement. Et ce débat qui va s'installer au sein de l'hémicycle, ça s'annonce comment, Jimmy Dalidou?
Oui, alors moi, je voudrais d'abord commencer par quelques chiffres. Faut pas oublier que pour la seule année 2021, le CAC 40, le profit du CAC 40 s'élève à plus de 73 milliards d'euros pour une seule année. Je rappellerai aussi que dans les paradis fiscaux, donc non repris dans le PIB national, sont cachés, planqués, plus de 200 milliards d'euros. Je rappellerai que l'Union européenne et la France, pour faire la guerre en Ukraine, donc ils ont financé le gouvernement fascisant ukrainien pour tuer des gens, ils ont déboursé plus de 23 milliards d'euros. Pas besoin d'avoir fait les grandes écoles bourgeoises, vous faites 200 milliards plus 70 milliards, vous êtes déjà à 270. Vous rajoutez 30, ça fait plus de 290
J'attends
milliards
la suite, là.
D'euros. Et dans le même temps, la réforme du chômage, on vous dit quoi? On vous dit que la réforme du chômage, les indemnités chômage, coûtent cher. Et de plus, elle serait un frein, puisque l'indemnité chômage empêcherait le travailleur de trouver du travail.
Là, vous parlez des règles.
Donc, non seulement le travailleur coûte cher, alors les 290 milliards pour faire la guerre, tuer des gens, ça coûte pas cher. Par contre, les 1000 euros qu'on va donner à un travailleur parce qu'il a été licencié ou quoi, là, lui, il coûte cher. De plus, ça, c'est la première chose. En plus, on nous dit, oui, c'est un frein. Alors, moi, je pose une question. Si l'indemnité de chômage est un frein au travailleur, enfin celui qui est au chômage, pourquoi ceux qui ne touchent pas d'indemnité ne trouvent pas plus de travail? Alors, on va peut-être se poser la question. Donc, de plus, c'est lié. C'est pas seulement que l'assurance chômage, c'est aussi la retraite à points, c'est aussi la loi travail qui avait été validée à l'époque de Madame El Khomri, etc. Vous voyez bien...
Parce qu'on voit bien que c'est... Pourquoi cette loi? Parce que c'est aussi le plein emploi.
Non mais le plein emploi, vous savez bien que dans un système capitaliste, il y aura pas de plein emploi, ça n'existe pas. Parce que les multinationales ont besoin d'une armée industrielle de réserve qui s'appelle chômage. Pourquoi? Parce que les multinationales ont besoin d'une force de travail fraîche, non formée, avec des méthodes de travail. C'est une réserve de force de travail qui. Ça permet aux multinationales de piocher de nouvelles forces de travail. C'est ce qu'on appelle la purge des forces productives lorsqu'on en a besoin. Donc arrêtons ce cinéma qui consiste à dire que dans ce système, on va résorber le chômage. Non, c'est faux. Les multinationales ont besoin du chômage.
Attendez, on va écouter Ménad et je reviens vers vous. Ménad ou Chénir ?
Alors écoutez, moi je.
Après avoir écouté tout ça,
je vais sortir ma chapka, ma faux, et je vais aller.
Vous avez raison, allez-y.
Clairement, Jimmy, brillamment toujours, hein, mais le ressort le discours classique du méchant capitalisme contre l'honnête travailleur.
Bah, je suis socialiste.
C'est bien. Enfin, c'est conforme. On parlait des idées tout à l'heure.
Enfin, je pense que le mode de production socialiste, idées, serait etc.
Moi, je mélangerai pas des sujets de géopolitique, des sujets d'évasion fiscale et nos sujets. Même
si on est un sujet social et sociétal, l'assurance chômage et les chiffres.
Des sujets plus nationaux,
de
réforme de l'assurance chômage. L'assurance chômage, quoi qu'on en dise, moi, ma conviction, c'est qu'il faut la réformer, puisque de toute façon, à l'époque où elle a été créée, le monde du travail, la configuration de l'économie nationale ou mondiale n'était absolument pas la même qu'aujourd'hui, avec la grande diversité des professions, des personnes, des formations, des métiers et les mutations de la société, y compris les plus récentes qu'on a connues suite à la pandémie. Donc oui, il faut la réformer. Le principe selon lequel il faille être peut-être plus généreux quand les temps sont durs et un tout petit peu moins généreux, pardon Dimi, quand les temps sont plus propices, moi ça me va. Mais ça aussi, il y a une notion pour moi de cas par cas qui doit être beaucoup plus importante et prégnante dans le futur dispositif d'assurance chômage que ça ne l'est aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, ce qui pénalise énormément de travailleurs et par extension de chômeurs, c'est qu'on fait un peu du taille unique. Les situations sont un peu les mêmes.
Mais vous savez que ça va être explosif au Parlement.
Mais ça va l'être. Mais il faut que ce soit explosif. Mais pas au sens où on a pu voir en début de mandature, en début de législature, où se foutait littéralement, presque littéralement sur la gueule à s'invectiver et puis les débats n'avançaient pas, il faut qu'il y ait du débat, il faut que la démocratie accouche d'une réforme. Mais arrêtons d'idéologiser quelque chose qui est un problème aussi, surtout peut-être technique, comptable et financier, moins que une histoire.
Mais il y a deux choses que tu dis pas. Il y a deux choses.
Sauf que la réforme est chaudement contestée. Il a raison.
La première, on a le droit de la contester. Deux choses quand même.
On a le droit de la contester, mais il faut proposer aussi des alternatives. Proposer quelque chose. Allons-y.
Il y a deux choses importantes.
Ça s'appelle le dialogue démocratique.
Alors, Jimmy Dalidou.
Deux choses importantes. La première chose, il faudrait quand même dire aux auditeurs que actuellement, pour bénéficier d'indemnité, il fallait travailler à peu près 4 mois par rapport au nombre d'heures de travail. 4 mois. Cette réforme de l'assurance chômage, il faudra que tu travailles 6 mois, minimum 6 mois. Le problème qui se pose, c'est que tu sais bien qu'il n'y a pas de CDI, il n'y a pas de travail. On vient de
le
dire.
C'est compliqué.
Le problème, c'est que la plupart des CDD n'atteignent pas les 6 mois. Ça veut dire que la plupart des Français vont travailler, la plupart des CDD n'excèdent pas les 6 mois, tu le sais bien. Donc beaucoup de Français vont travailler et ne seront pas indemnisés. Et le deuxième, ça c'est le premier élément. Le deuxième élément, et ça c'est l'axe central de cette réforme, c'est qu'ils te disent que cette réforme sera modulable pour s'adapter au marché du travail. Le problème qui se pose, c'est qu'on module les revenus du travail, mais quand il s'agit des revenus du travail, il faut s'adapter, moduler. Mais quand il s'agit du profit, on s'adapte jamais. On module jamais.
Parce que c'est la réforme de l'assurance chômage, non, et pas la réforme du versement des dividendes.
D'une manière générale, on va réduire.
C'est un autre combat qu'il faut mener.
L'orientation générale, c'est la réduction du coût du travail, mais qui se fait toujours sur le dos des salariés, jamais sur le dos des dirigeants. Le problème est là. Tu sais bien que le marché du travail.
Quand je vous écoute là, on dirait qu'on stigmatise les chômeurs.
Bah oui, c'est un système qui stigmatise les chômeurs. Bien sûr. Parce qu'on fait croire que les chômeurs sont des feignasses, on leur fait croire, on les culpabilise, en faisant croire qu'ils sont des feignasses, que ce sont des gens qui veulent pas travailler, ceux qui sont bien dans leur chômage, alors que c'est faux. La plupart des chômeurs sont précaires, ils sont en galère, ils voudraient travailler. Déjà, et quand on trouve une formation, la plupart des formations.
On leur propose des boulots qui sont pas du tout liés à leurs compétences.
La plupart des formations sont bidons, et quand tu trouves une formation, elle est même pas rémunérée. Alors on leur dit tu vas te former, tu vas aller te former,
elle
sera même pas rémunérée, mais quand t'as un loyer à payer, comment tu fais? Quand t'as un loyer à payer et que ton loyer il fait 90% 90% de ton revenu. Parce que quand t'es smicard et que tu payes un loyer, ton loyer, il fait 90%
du SMIC. Et on a le problème. Introduisez les amendements. Défendez les amendements.
Et en plus, on te dit que t'es une
fignasse. Qui sera contre ça?
Bah, vous allez voir que ça va péter.
Mais ça va péter. Mais alors, ça, pardon.
Ça va péter, ça veut dire quoi? Les manifs?
Bah, les syndicats, on va s'opposer. On s'oppose. Non, mais tous les syndicats.
Ça devrait être.
On s'opposera à cette assurance de l'assurance chômage.
Le slogan de la CGT.
Parce qu'elle est injuste. Elle est inacceptable.
Sans tout faire péter. Parce que quand ça, ça va péter, on parle de manifs, etc. Moi, je vous dis, je prends les transports,
je parle de mouvements sociaux,
l'avion ou autre. Qui est-ce qui trinque? Moi, en plus, j'ai de la SNCF, donc pour le coup, on peut en parler. Au Japon, quand vous avez des grèves, certaines grèves, ils font des grèves de la gratuité. Qu'est-ce qu'ils font? Ils ouvrent les barrières, puis les gens prennent le train, voilà, gratuitement. Ils payent pas leur billet ni rien, etc. Et roulez jeunesse. Et qui est-ce qui perd effectivement? C'est l'entreprise contre laquelle effectivement ils font grève. Donc ils continuent de bosser, sauf que l'usager, il est ouvert. Donc c'est une grève qui ne s'en prend pas à l'usager. Et avec toutes les conséquences qu'on sait, puisqu'on a tous vu les quais, vécu les quais bondés.
Sauf que là, on pénalise les usagers.
Pourquoi chez nous, à chaque fois qu'il y a une réforme dure, parce que y a la lutte, moi, je remets pas en question la légitimité qu'il faille lutter pour ces idées. Mais, c'est nous les grouillots qui trinquons. C'est-à-dire qu'on arrive le matin sur le quai du RER ou du métro, on peut plus prendre le train. On essaye d'aller en vacances parce qu'une fois de temps en temps, on peut quand même peut-être parfois, au moins une fois par an, se payer des vacances. Il y a l'avion, le contrôleur aérien, etc. Fait grève. Bon, arrêtons de s'en prendre à l'usage. Je vous dis, on stigmatise les chômeurs. Il y a effectivement, et j'ai vu encore il y a pas longtemps, de quelqu'un qui stigmatisait. Ce n'est naturellement pas la bonne voie, mais s'en prendre à l'usager parce qu'il faut tout faire péter parce qu'on veut faire passer ses idées, c'est pas la bonne voie non plus. Il y a un parlement. Vous avez quand même des formations politiques idéologiquement proches de vous, si ce n'est même avec une intrication forte. C'est à eux de déposer les amendements, c'est à eux de les défendre. Mais au lieu de gueuler sur le député d'à côté qui est pas du même bord pour lui dire que c'est un moins que rien, eh ben, faites de la coalition, réunissez. Ils ont réussi à faire la NUPS à un moment. D'ailleurs, on voit comment ça finit. Mais élargissez. Qui va refuser un amendement? Ou pourquoi refuser un amendement pour qu'on puisse, par exemple, avoir une aide, une espèce d'APL pour les personnes en formation?
Il y a deux choses dans ce que tu dis. La première chose, c'est qu'il n'y a pas que les cheminots dans la vie. Il y a la classe ouvrière et les couches populaires, c'est très large. T'as aussi les hôpitaux, t'as aussi EDF, t'as aussi le gaz, t'as
le secteur privé.
Ça rappellerait aussi que le secteur privé, la plupart des entreprises privées préfèrent licencier des salariés plutôt que de voir des salariés créer des organisations syndicales dans leur entreprise. Ça, c'est une réalité aussi.
C'est une dérive.
Sinon, dans le privé, il y aurait aussi des syndicats qui permettraient de défendre les salariés.
Il y en a dans le privé.
Le problème, c'est que les patrons préfèrent licencier. Ça, déjà, c'est la première chose.
Il y en a dans le privé.
Ensuite, donc déjà, la classe ouvrière et la couche populaire, c'est très large. Il n'y a pas que les cheminots. Ensuite, tu me parles du Parlement. Le problème, c'est que les parlementaires actuellement, quel que soit le bord politique, et c'est ça que vous n'arrivez pas à comprendre, les Français rejettent la politique actuelle parce que tous les parlementaires actuellement se présenteraient plutôt comme étant une opposition contrôlée, une opposition acceptable à la bourgeoisie monopoliste. Et donc, c'est toute la politique qui n'est pas accepté par les Français. Parce que à un moment ou à un autre, parler et toujours parler.
Il vous répond.
On en a marre, il faut agir.
Allez, Ménade, parce qu'on arrive au terme de cette émission. Ménade.
Moi, je suis profondément légaliste et légitimiste. On a des institutions. Dire que les Français rejettent la politique, c'est pas vrai. On peut pas faire un bloc comme ça et balayer d'un revers de manche. Si on continue de les présenter.
Tu veux qu'on revienne sur les chiffres de l'abstention pendant les dernières élections?
Un peu comme tout à l'heure. Mais justement, si on, comme tout à l'heure, présenter les politiques tous pourris, naturellement, il y aura un rejet. Commençons à respecter davantage les institutions. Commençons à avoir un peu plus d'éducation civique.
Respectons d'abord les salariés.
Les Français comprennent que tous ces gens-là qui siègent dans des commissions, dans des hémicycles, etc., c'est pas juste pour pomper.
Respectons les salariés, les chômeurs d'abord.
Public, c'est aussi pour voter des lois et légiférer. Voilà.
Merci à vous, messieurs. Débat très passionnant, effectivement. Merci à Jimmy Dalidou. À très bientôt.
Merci à tous.
Merci à Ménade Ouchenir. À très bientôt.
Merci.
Merci aussi aux auditeurs au 0153 48 3000, mais également aussi à la réalisation Zora Bilal Ledman. C'est dans une poignée de minutes à 20h, 21h, et puis ensuite Vanessa, 21h, 20-21, pardon, dans l'autre sens, 20-21 et 21-23. Quant à moi, je vous retrouve demain avec autant de plaisir. D'ici là, on ne lâche rien. Ciao, ciao.
Retrouvez les informés tous les jours de 18h à 19h30 et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.